Le journal des idées, Jacques Meunier.
Et oui, donc l'entrée en sixième sonne souvent comme un défi pour les familles installées dans les quartiers mélangés, résument Michel Beckenbois et Sonia Faure dans les pages idées de Libération. Ceux qui étaient venus gentrifier des quartiers populaires se retrouvent grosjean comme devant au moment d'inscrire leur enfant à l'école. La mixité sociale qui leur souriait le dimanche matin au marché leur grimace alors la mauvaise réputation de l'établissement assigné par leur secteur. Julien Grenet de l'école d'économie de Paris, qui a participé au projet de multisectorisation mis en place dans la capitale pour casser les ghettos scolaires, confirme. Des parents qui ont toujours joué le jeu du public et de la mixité se retrouvent dans certains quartiers face à un choix cornélien, ghetto ou privé, à cause d'un manque de coordination de la puissance publique. Et le philosophe Patrick Savidan ajoute, parce qu'il n'a pas pris au sérieux le problème de la mixité à l'école, l'État met les parents en demeure de choisir entre leur enfant et la solidarité. Pourtant, des études montrent qu'il n'y a aucun bénéfice scolaire à aller dans le lycée le plus sélectif, même s'il est beaucoup plus réputé. À niveau de départ donné, les élèves finiront avec le même niveau au moment d'entrer dans le supérieur, affirme l'économiste Éric Morin, qui précise que si le climat scolaire peut jouer sur les comportements, il n'influe pas sur le niveau. Pour les filles, aller dans un établissement sélectif peut même être négatif en bridant leur choix d'orientation. À niveau individuel initial égal, une lycéenne va plutôt moins souvent en section S dans les lycées où le niveau général est plus élevé. Sans compter que là où l'expérience a pu être menée et ses leçons tirées, comme dans les pays scandinaves, l'effet du collège unique paraît avoir été particulièrement bénéfique pour les enfants d'origine modeste. Le géographe Michel Lussault, ancien président du Conseil supérieur des programmes, rappelle que les pratiques d'évitement ont explosé dans les années 90 dans les zones pavillonnaires périphériques. Les milieux bourgeois, eux, avaient déjà depuis longtemps l'habitude d'envoyer leurs enfants dans le privé. Progressivement, le phénomène va toucher les classes moyennes des banlieues et des grandes villes comme Paris ou Lyon, qui historiquement ont été à la base du pacte social à la française et qui ont apporté leur voix à la gauche au nom des valeurs de mixité et d'ascension sociale. Là encore, c'est la politique de l'État qui est incriminée dans le manque de mixité des établissements. La politique de la ville a spécialisé certains territoires dans l'accueil des populations défavorisées. Les collèges et les écoles se sont homogénéisés et ségrégés. Du coup, la vision de l'école comme lieu de confrontation et de différence n'est plus acceptée. Pour enrayer le cercle vicieux de la ségrégation, certaines initiatives méritent d'être soutenues. À Paris, et signalé à Paris, dans le 18e arrondissement, des parents d'élèves vont rencontrer les équipes pédagogiques afin que leurs enfants puissent tous se retrouver dans les mêmes collèges de proximité. Le collectif Apprendre Ensemble estime l'expérience réussie. Nous le constatons tous les soirs en parlant avec nos enfants de ce qu'ils ont appris et vécu au cours de leur journée. Une école reflétant la diversité de la France est essentielle à leur bien-être et à leur réussite et dessine la société future dans laquelle ils vivront. À Cambridge, dans le Massachusetts, ce sont les pouvoirs publics qui affectent les élèves de telle sorte que le taux d'élèves défavorisés de chaque école soit équivalent. La revue Études publie un numéro spécial éducation et notamment un entretien avec Sylvie Goulard, ancienne députée européenne, qui insiste sur l'éducation comme enjeu central pour la construction européenne. Et malgré le succès des programmes d'échange comme Erasmus ou Comenius, les lacunes dans les politiques pédagogiques qui ne préparent pas les enfants à devenir des citoyens européens actifs, en particulier dans l'apprentissage des langues et de la diversité culturelle. Les identités nationales ont été confortées à la fin du 19e siècle lors de la généralisation de l'école gratuite et obligatoire, rappelle-t-elle. Il faudrait aussi élargir le champ des échanges de jeunes à des parcours professionnels et d'évoquer des initiatives intéressantes pour ouvrir l'école sur la société. Dans certains pays nordiques, les enfants font le ménage de leur école pour apprendre à respecter le travail de service. En Allemagne, ce sont les étudiants qui gèrent la bibliothèque universitaire en soirée afin qu'elle reste ouverte plus tard. La revue Vacarme s'intéresse elle aussi à l'école dans sa dernière livraison avec notamment un entretien avec Victor Lalo, prof d'arabe, qui s'emploie à décloisonner la langue de sa charge identitaire, sans pour autant oublier que dans les quartiers populaires, où sont nombreux les enfants issus de l'immigration maghrébine, cet enseignement permet de valoriser la culture familiale et également de relativiser le lien fort de cette langue avec l'islam et le Coran, en leur montrant qu'il existe aussi une littérature profane, quitte à provoquer un peu, érotique, portée sur le vin et qui n'a rien d'islamique.